Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, nouvelle édition de votre magazine qui chaque semaine retourne et décortique l'essentiel de l'actualité de la semaine en Afrique. Bienvenue à tous. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci de votre fidélité.
Et au menu de votre émission, le départ du gouvernement des ministres au Sénégal qui suscite la polémique et entraîne une passe d'armes entre lui et le président Macky Sall. Tierno Alassane Sall, ex-ministre de l'énergie, répondant au président Macky Sall qui, dans une interview, avait déclaré que celui-ci a été limogé, a répondu qu'il avait bel et bien démissionné, ajoutant qu'il avait refusé de signer un contrat attribuant un marché au groupe français Total parce qu'il n'était pas dans les intérêt du Sénégal. Échauffement avant la joute présidentielle du 24 février prochain dans le pays de la Teranga. Le débat, c'est à suivre. La victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en RDC sera-t-elle confirmée ou remise en cause par la Cour constitutionnelle? Le fils de la défunte figure de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 30 décembre dernier par la commission électorale, prise à partie par celui arrivé en seconde position, toujours d'après ses résultats provisoires. Martin Fayoulou a dénoncé un hold-up électoral.
C'est une vilaine escroquerie. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité.
Quelle issue possible à ce bras de fer post-électoral? Nous en débattrons avec nos invités. Dernier sujet, le Gabon, où un putsch manquait à renforcer la tension dans le pays, accentué par l'absence du président Ali Bongo, malade depuis le 24 octobre dernier. Un lieutenant est apparu à la télévision publique, entouré de deux hommes armés, pour appeler les Gabonais au soulèvement. L'enquête judiciaire ouverte révèle que le nombre de personnes impliquées est de 6, dont deux qui ont été abattus lors de l'assaut de la gendarmerie nationale. Quelles peuvent être les implications sociopolitiques de ce coup de force raté et qui laisse certains Gabonais dubitatifs? Rendez-vous dans les débats. Francis, à vous pour le plateau.
Oui, un grand témoin invité dans cette édition. Il est avec vous dans l'Institut BBC Afrique à Dakar. Tierno Alassane Sall, ancien ministre de l'énergie du Sénégal, président du mouvement politique La République des Valeurs. Tierno Alassane Sall, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Laloupo.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Notre confrère, deux confrères invités dans cette édition, au téléphone depuis Kinshasa, le fils Matadi, secrétaire à la rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques, journaliste, reporter au site d'information mediacongo.net. Le fils Matadi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Nous sommes également en compagnie de Guy-Pierre Bitégué, qui est avec nous cette fois depuis Libreville au téléphone, directeur de la publication du journal Lumbandia, édité au Gabon, président de l'organisation patronale des médias LOPAM. Guy-Pierre Bitégué, bonjour.
Il n'est pas avec nous, Francis Laloupo. Selon les informations de la réalisation.
On est allé le chercher peut-être, bon, on verra bien. Alors, petite fiche de présentation, comme de tradition, de notre grand témoin invité, Tierno Alassane Sall, diplômé de l'école d'ingénieurs de Sfax en Tunisie, en télécommunication et en aviation civile. Diplômé également de l'école inter-état d'aviation civile de Niamey au Niger et en économie de la faculté des sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes un haut fonctionnaire avec une expérience de 30 ans en tant qu'expert de l'aviation civile internationale, dont une vingtaine d'années au sein de l'Agence pour la sécurité de navigation aérienne, la SECNA. Vous avez également occupé le poste de directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. En ce qui concerne votre parcours politique, vous avez été ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement. Vous avez été ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, poste dont vous avez démissionné en mai 2017 pour marquer votre opposition à ce que vous désignez comme, je cite, un bradage des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Fin de citation. Vous êtes le président du mouvement politique La République des Valeurs. Tierno Alassane Sall, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, Liliane, à Dakar.
Voilà, merci Francis. Le président Macky Sall a-t-il été très, voire trop bienveillant avec une entreprise française au point de compromettre ignorer même l'intérêt de son pays, le Sénégal. C'est ce dont l'accuse en substance son ancien ministre de l'énergie, Tiernou Alassane Sall, qui a quitté le gouvernement il y a bientôt 2 ans. Le leader du mouvement La République des Valeurs, limogé, selon une expression du gouvernement, le jour de la signature de 2 importants accords pétroliers entre le Sénégal et Total, affirme que le président sénégalais aurait préféré le groupe français arriver 5e plutôt que BP Kosmos, qui était en première position en termes d'offres dans un contrat pétrolier. Je souligne que nous avons tenté en vain d'avoir la réponse du gouvernement sénégalais à ces accusations en contactant notamment son porte-parole. Nos appels téléphoniques et messages sont restés sans suite. Et nous restons évidemment à l'écoute, monsieur le ministre Sédou Gueye, si vous souhaitez évidemment réagir. Je vais donc m'adresser à vous, Tiernou Alassane Sall. Limogé ou pas, vous vous êtes exprimé dessus. En tout cas, c'est votre parole contre celle du président Macky Sall. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi la polémique éclate seulement maintenant, alors que votre départ du gouvernement date quand même de mai 2017. On peut même penser qu'il s'agisse simplement d'une vengeance d'un candidat à la présidentielle débouté et donc député.
Bonjour, et je voudrais vous remercier d'abord et saluer le travail que vous faites pour éclairer l'opinion publique africaine. Je dois ajouter à ma modeste biographie que je suis membre fondateur de l'Alliance pour la République.
Le parti au pouvoir, le parti du président Macky Sall.
L'APR. Dont j'ai été le coordinateur des cadres depuis la date de la création, enfin juste après la création, jusqu'au moment où je quittais mes fonctions de ministre. Et suite à quoi j'ai démissionné de l'APR.
Vous avez donc pris vos distances avec le parti, alors, avec l'APR.
En juillet 2017.
C'est ça.
Et deux mois après votre démission. Selon votre version.
Ma sortie du gouvernement, donc, pour simplifier les choses. Je dois ajouter aussi que quand on créait l'APR, on avait des devises extrêmement simples qui voudraient que 60 ans, ou bientôt 60 ans après les indépendances africaines, en grande partie, que nous puissions nous réapproprier de notre destin. Et le slogan de l'Alliance pour la République était très simple. La patrie avant le parti. Donc, la patrie avant le parti de l'étranger surtout, comme diraient d'autres. Et tout de suite après ma démission, j'ai multiplié les sorties médiatiques, bien au contraire. Vous noterez que ce n'est pas moi qui ai relancé la polémique, c'est bien le président Macky Sall qui interrogeait pour une seule fois par des journalistes, disons, de diverses obédiences, le 31 décembre, en répondant à la question d'un de vos confrères, dit que j'ai été limogé.
Ce que vous contestez.
Ce que je conteste absolument. Et j'ai eu à m'expliquer plusieurs fois à travers la presse nationale pour dire que le jour de cette fameuse rencontre pour la signature de contrat, j'étais parti nanti de ma lettre de démission. J'ai eu un premier entretien avec le Premier ministre qui a multiplié les assauts téléphoniques par SMS qui sont consignés chez
Mohamed Ndion, l'actuel Premier ministre.
L'actuel Premier ministre qui a multiplié les assauts de SMS jusqu'à 1h du matin, puis à partir de 8h. Et je dis que tout cela est consigné par huissier, que j'ai ces SMS-là bien gardés, bien au chaud. Et que quand je suis arrivé ce matin au palais, il m'a pris en aparté pour me dire: mon frère, il faudrait qu'on puisse trouver une solution. Bon, c'est vrai que tu as des points de vue importants, mais on est maintenant dans une sorte d'impasse. Il faut que...
En clair, le Premier ministre vous demandait de ne pas démissionner et de signer le contrat avec Total.
Ce sur quoi je lui ai dit, j'ai ma lettre de démission sur moi et qu'on n'a pas d'autre choix que de... Voilà. Et je dois ajouter que le fond du problème... Parce qu'on veut m'enfermer dans ce débat, est-ce qu'a-t-il démissionné, n'a-t-il pas démissionné? Ce que je dis est très simple, est très clair. Il y avait 2 positions absolument antagoniques et irréconciliables. Celle qui consistait à dire que Total, ayant été classé par les services du ministère, pas par moi-même, par une commission multipartite du ministère et d'autres secteurs, en 5e position, et en fait l'une des offres les pires qu'on ait pu faire ces 20 dernières années, ne peut pas bénéficier d'un permis, en tout cas signé de ma main. C'était ma position et c'est ma position. Et les faits que je livre sont incontestables et incontestés à ce jour. que Total est arrivé à la 5e position et que BP Cosmos avait une offre de loin, mais de loin meilleure que celle de Total.
Mais
c'est
le président Macky Sall a préféré, d'après votre version, Total. Pour ne pas s'attarder, parce que le temps passe très vite, monsieur le ministre, dont vous dites, vous maintenez que vous avez démissionné, est-ce que vous pouvez nous dire clairement qu'est-ce qui, dans ce contrat proposé par Total, desservait l'intérêt du Sénégal ou les intérêts de l'État sénégalais?
C'est ce que j'étais en train de dire. Je dis, ils étaient en 5e position derrière BP et Cosmos. Je rappelle que BP, c'est du point de vue technique comme financier, c'est quand même une entreprise plus lourde que Total. Que Cosmos est l'entreprise qui a trouvé la première fois du gaz sur deux blocs différents au Sénégal et donc a l'expérience du Sénégal, du Ghana, de ce qu'on appelle le bassin atlantique. Et dans ces conditions, l'offre de Total, de BP, sur certaines tranches de production journalière, puisque le tout se fait à partir de tranches de production journalière en termes de milliers de barils par jour, l'offre de Total pourrait aller, l'offre de BP était parfois, BP Cosmos était parfois jusqu'à 23% plus élevé que celle de Total. Et en tout état de cause, sur toutes les tranches, était au moins de 15% meilleur en termes du revenu qui va finalement, que va prendre le Sénégal à l'État sénégalais. Et ça, nous Africains, qui avons toutes les peines du monde à trouver le juste prix de nos ressources et qui avons des difficultés pour nous sortir de notre misère, qui n'avons que nos ressources prétérielles pour l'instant ou nos matières premières, pouvons-nous continuer à assister à périssables qui sont des ressources non infinies? Donc, pouvons-nous continuer à laisser nos ressources être bradées dans ces conditions? En tout cas, moi, Africain, né après l'indépendance, estimant que nous sommes des hommes libres et que nous devons enfin une fois nous tenir debout face au monde et dire que nous sommes aussi libres que n'importe quel autre. Nous ne pouvons pas accepter ce genre
Merci beaucoup. Donc vous dites que ça n'a rien à voir avec le rejet de votre candidature à la présidentielle de février prochain.
Mais ce débat est sur la place publique sénégalaise depuis bientôt 18 mois et c'est la cause principale de mon départ. Et je rappelle que ce n'est pas moi qui ai rouvert ce débat. Je suis parti du gouvernement parce que j'estimais que les raisons fondamentales pour lesquelles on avait mis en place l'Alliance pour la République et qu'on s'était opposé au régime de Ouad, que ces raisons fondamentales étaient en train d'être trahies. Qu'au lieu de la patrie avant le parti, on était en train de faire le parti de l'étranger avant même la patrie. Et que ça, c'est inacceptable de mon point de vue d'Africain.
Le parti de l'étranger, dites-vous, Tiano Alassane Sall. Est-ce qu'on peut dire que cette décision d'accorder l'exploitation du pétrole à Total se fondait davantage sur des raisons politiques que sur le bon sens? Et comment explicitez-vous très clairement ces raisons politiques?
Oui, vous constaterez, c'est pas le seul dossier d'ailleurs, si vous vous intéressiez davantage, mais le temps ne le permet pas à mon parcours et aux différends que j'ai eu avec l'actuel président et le premier ministre. Vous constaterez que je suis sorti du gouvernement la première fois sur la base de divergences de vues sur des contrats. À l'époque, c'était aussi un groupe français qui avait bénéficié d'un second contrat. Il s'agit d'Eiffage sur l'autoroute à péage. Donc aujourd'hui, force est de constater après le septennat qui s'écoule que jamais les intérêts privés étrangers n'ont été aussi représentés au Sénégal.
Quand vous dites quand étranger, vous voulez parler essentiellement d'intérêts français?
Pour ne pas paraître anti-français, loin s'en faut, hein, puisqu'on parle même la langue française actuellement. Disons que oui, mais il y a aussi d'autres. Par exemple, les intérêts turcs qui se sont appropriés de l'aéroport international Blaise Diagne dans des conditions qui ne respectent pas les lois en vigueur au Sénégal. On peut aussi parler des ports, on peut parler d'autres pays asiatiques, mais essentiellement, oui, les intérêts français sont revenus en force et particulièrement même dans des domaines comme la petite distribution. Vous voyez aujourd'hui des Sénégalais qui sont en train de s'agiter contre la présence de la petite et grande distribution. On parle de grande distribution, mais quand vous voyez...
Il y a des manifestations contre les magasins Auchan, par exemple, au Sénégal, un magasin français Auchan. On a vu des manifestations qui ont été organisées notamment par un collectif dénommé France Dégage. Et est-ce que la gestion par le pouvoir sénégalais actuel des relations avec la France est à l'origine de ce qu'on ressent comme une montée du sentiment anti-français aujourd'hui au Sénégal?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-bradage de nos ressources et de nos positions économiques. On n'a aucun problème particulier avec la France ou avec les Français. Il n'y a pas de manifestation anti-français au Sénégal. Il y a que nous ne pouvons pas comprendre que des magasins de coins, qui ne sont même pas de grande surface, viennent chasser sur des Sénégalais dans les rares secteurs où ils prospèrent encore, les boutiques de coin. Et ces gens, ces boutiquiers qui sont ainsi, qu'on note ainsi le pain de la bouche, vont se transformer en quoi? Ils vont prendre les bateaux pour aller en Europe, dont les portes se ferment devant eux. Ils vont faire quoi? Ils vont devenir peut-être du pain béni pour les extrémistes.
Donc vous dites que cette politique est aux antipodes des engagements politiques, je dirais, des engagements fondateurs de l'APR.
Absolument. Et ces engagements-là, c'était la patrie avant le parti, c'était la gestion sobre et vertueuse, donc le respect des lois. Et je dois signaler que par rapport à la question, pour revenir à la question des contrats pétroliers, les lois du pays n'ont pas été respectées. Je l'ai dit et redit. La loi 98-05 fait obligation, qui comporte un code pétrolier, fait obligation au gouvernement de respecter un certain nombre de procédures et de démarches à l'effet d'attribuer un permis pétrolier. Rien de cela n'a été observé. Et il serait long d'insister là-dessus ici. Mais ça montre simplement que ce que la France ne peut pas se permettre chez elle, ce qu'un ministre ou un président français ne peut pas se permettre chez lui, c'est-à-dire violer les lois du pays, et surtout en faveur d'entreprises étrangères. On le fait allègrement chez nous, au vu de tout le monde, et comme je dis souvent, j'ai interpellé la justice du pays, si ce que je dis, c'est des histoires communes.
C'est-à-dire que vous demandez une suite judiciaire, ou tout au moins peut-être une enquête de parlementaire sur ce dont vous accusez le président?
Mais j'ai demandé au Parlement de se saisir de cette question. Mais comme le Parlement est pour l'essentiel dominé par la coalition au pouvoir, il n'y aura aucune suite. J'ai demandé à la justice de se saisir. J'ai même demandé aux citoyens d'élaborer des pétitions à l'effet de pousser la justice à se saisir.
Est-ce que vous, finalement, si on peut parler de bataille, est-ce que vous ne vous sentez pas seul dans ce qui peut donc apparaître comme une bataille? Voilà, contre des intérêts économiques de la France?
Pas de la France. En fait, vous voyez, Total, c'est un groupe de privés, bien évidemment soutenu fortement par le gouvernement français, puisque tout ce dossier a été piloté de haute main par l'administration sortante, qui était l'administration Hollande, et je présume que l'administration suivante a eu les mêmes positions. Donc, sur ce plan, on ne peut pas reprocher aux Européens d'être cohérents vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est nous qui devons savoir ce que nous voulons faire de notre continent et de notre pays.
Monsieur Sall, encore un mot avant la pause, très rapidement. Vous avez affirmé que le président a bien dit que parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes, 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci ou cela, cela signifie-t-il, et c'est pour cela qu'il faut laisser Total obtenir ce contrat. Est-ce que cela signifie pour vous que le Sénégal a des problèmes de trésorerie?
En fait, si vous avez écouté le message du président de la République le 31 décembre 2018, répondant à vos confrères, il a bien dit « Non, mais vous savez, on ne peut pas traiter la France comme tous les autres pays. Quand on a des problèmes, c'est la première nation à nous tendre la main. » Vous vous souvenez, quand j'étais arrivé au pouvoir, je le cite, hein, bien évidemment, quand je suis arrivé au pouvoir, les caisses étaient vides, on avait des problèmes de salaire, ils nous ont donné 65 milliards. Mmh. Et il expliquait
Est-ce que le Sénégal a des problèmes d'argent?
Il expliquait incidemment pour les raisons pour lesquelles il avait donc préféré donner à Total ce contrat. Je le cite, je n'ai rien inventé. C'est des paroles que vous pouvez retrouver sur le net, que les auditeurs peuvent retrouver sur le net.
Merci
de fait,
beaucoup.
J'en tire une première conclusion.
On va marquer une pause obligatoire. On reviendra.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité dans la studio BBC Afrique à Dakar, Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'énergie du Sénégal, président du mouvement politique La République des Valeurs. Notre confrère invité, il est avec nous Au téléphone depuis Kinshasa, le fils Matadi, secrétaire à la rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques, journaliste reporter au site d'information média congo.net. Monsieur le ministre Tchernou...
Francis, oui, juste ajouter, Guy-Pierre Bitégué nous a rejoint.
Ah ben voilà, mais écoutez, je n'ai pas l'image, donc je ne peux pas le savoir. Guy-Pierre Bitégué, qui est directeur de la publication du journal Le Mbandja, édité au Gabon, président de l'organisation patronale des médias OPAM. Je le salue, Guy-Pierre, bonjour.
Bonjour, meilleurs
vœux. Merci, meilleurs vœux à vous également. On va continuer le débat que vous avez pris en cours de route. Tierno Alassane Sall, juste avant de vous poser une question sur la gestion du pétrole telle qu'elle s'annonce selon vous. Dans vos déclarations, on comprend donc qu'aujourd'hui, le Sénégal en est encore à tendre la main à la France pour avoir des raccords financiers, vous payer les salaires de fonctionnaires.
Mais ce sont les paroles du président de la République que j'ai citées le 31 décembre, je rappelle, 2018. Et c'est malheureux, comme je dis, nous devons, nous, Africains, réévaluer nos rapports avec nous-mêmes d'abord, pas avec les autres. Parce qu'il y a un proverbe Wolof qui serait bien approprié ici. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons en fin de compte. Est-ce que 65 milliards, c'est hors de portée de nos pays quand on voit toutes les dépenses somptuaires qu'on fait et qu'a fait ce gouvernement-là par rapport à des centres qui sont construits à coût de milliards, 50 milliards, sans aucun besoin particulier pour que ces centres de conférence soient là. Des dépenses somptuaires donc, et des dépenses de prestige. Alors nous, même que les dépenses essentielles pour le pays sont souvent, on passe la main à d'autres. Vous voyez par exemple qu'à Saint-Louis, il y a la digue qui est là, qui demande 23 milliards pour être fermée, ou la brèche qui avait été construite et ouverte par le régime précédent, ou chavire beaucoup de pirogues. Mais pour 23 milliards, on est en train de tendre la main à l'échelle internationale.
En fait, ce que vous critiquez au fond, c'est la conception même du pouvoir par le président Macky Sall que vous critiquez en fait.
Mais c'est cette conception qui veut que nous saluions les Français en disant oui, bon, quand on était avec les tirailleurs, ils nous donnaient des desserts, nous tirailleurs sénégalais, on avait des rapports particuliers. C'est le rapport particulier du cheval et du cavalier. Quand le cavalier s'occupe du cheval, qu'il le bichonne bien, qu'il le traite bien, c'est pas pour le plaisir du cheval, c'est pas pour sa bonne santé, c'est pour le plaisir du cavalier. Nous donner 65 milliards
pour qu'il gagne des compétitions.
Pour qu'il gagne des compétitions, ou que le cavalier soit bien apprécié des passants et des autres parce qu'il enfourche un beau cheval. Et alors nous ne devons pas être dans le rôle du cheval, même si on a du foin de très bonne qualité, de très haute qualité.
Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que vous avez des SMS, vous avez les traces, des preuves selon lesquelles vous avez démissionné viré du gouvernement. Cela signifie, si je comprends bien, que vous êtes prêt à la confrontation, y compris avec le président Macky Sall. Mais ma question s'intéressait davantage à l'impact de votre action. Comment expliquer que tout ce que vous dites ne trouve pas écho auprès du Parlement, auprès de la justice sénégalaise et même auprès de vos compatriotes? Et aussi, quels sont vos rapports aujourd'hui avec des responsables français locaux ou ministériels français, des responsables du gouvernement français?
Très bonne question, madame. C'est presque pitoyable qu'en Afrique, des déclarations aussi fortes que celles que je fais ne trouvent pratiquement écho nulle part. Alors que si vous étiez dans un pays européen et ailleurs, vous seriez été tout de suite la levée des boucliers et la justice se serait autosaisie.
Soit ça n'a rien d'étrange pour ses compatriotes, soit c'est vous qui n'êtes pas crédible.
Non, ce que je dis est crédible. Et
peut-être on vous considère comme un simple délateur.
Non, loin s'en faut.
Mécontent parce que...
Non, loin s'en faut. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, je parcours la rue, me rendre hommage pour le courage que j'ai eu de dire les yeux dans les yeux au président de la République que je ne pouvais pas accepter.
Ça, c'est votre version?
Oui, mais puisque vous m'interrogez, je ne peux vous donner que ma version. Vous avez vous-même signalé que les autres refusent le débat. Donc, pour l'instant, vous êtes obligé de vous contenter de ma version. Je dois dire que l'affaissement de nos institutions fait que personne ne veut entendre ce que je dis du point de vue des institutions, pas du point de vue du public. Les médias m'ont beaucoup interrogé. Vous pouvez consulter Internet, vous verrez que je suis passé sur tous les médias locaux, sur toutes les télévisions quasiment, à l'exception de la télévision d'État.
Mais ensuite, rien ne se passe, puisque vous avez demandé une pétition qui n'a jamais abouti.
Oui, mais parce que c'est la faiblesse de nos démocraties. Vous voyez ce qui se passe un peu partout en Afrique, dans nos pays, la société civile est relativement faible. L'opposition n'a pas beaucoup accès aux médias, not particulièrement les médias d'État, les médias privés vivotent un peu. Il n'y a pas une société civile suffisamment puissante à même, comme en France ou ailleurs, les gilets jaunes, puisqu'on est obligé souvent
de... Vous vous exprimez quand même dans un pays de Yanamar, qui est une puissante organisation de la société civile, qui a fait reculer le président Ouad en 2012.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez où en est Yanamar ou la société civile sénégalaise, même peine à être entendue? Vous suivez un peu l'actualité sénégalaise.
D'accord. Le... Quelle est votre relation aujourd'hui avec certains responsables français locaux et... Vos collègues du gouvernement, enfin, pas vos collègues, mais les membres du gouvernement français que vous avez côtoyés hier?
Aucune relation. Nous avions des relations professionnelles. Dès l'instant où je ne suis plus membre du gouvernement du Sénégal, je n'ai plus aucune relation avec quelque autorité que ce soit. Je suis dans une posture qui est la même, au fond. C'est que nous sommes entrés en politique pas pour des objectifs personnels, pas pour une carrière sans quoi. Je serai resté au gouvernement. Je rappelle que la première fois que je suis sorti du gouvernement, c'est suite à des différends et que le Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a sorti un livre, Servir, en page 95, a pu témoigner de ce que j'ai défendu à l'intérieur du gouvernement avec objectivité, honneur, les valeurs qui étaient les miennes. Je vous renvoie à son livre et je renvoie à tous les auditeurs à ce livre-là. Donc, je suis sorti une première fois, je suis revenu une deuxième fois. Et ce n'est pas le seul contrat sur lequel j'ai eu des problèmes avec le gouvernement. J'aurais pu en citer d'autres, mais le temps ne le permet pas. Donc, moi, je n'ai aucune frustration particulière. Au contraire, comme je le dis souvent, je suis fier et content d'être dans la situation actuelle de celui qui a pu. On se pose des questions. Si la colonisation, on était vivé les temps de la colonisation ou les temps de l'esclavage, quelle aurait été notre position? Est-ce qu'on aurait résisté? Moi, j'ai pu répondre à cette question que chaque Africain a pu se poser un jour. Moi, j'ai pu résister à ce que je considère comme une recolonisation de notre pays.
Et merci.
Quelle que soit l'opinion que s'en font les autres, j'ai ma propre opinion et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait et je n'ai aucun regret.
Francis, peut-être donner une minute à nos confrères.
Oui, bien sûr.
Allô, le fils?
On va commencer par le fils Matadi.
Oui. Oui, brève réaction sur ce débat sur, on va dire, l'indépendance économique du Sénégal que défend notre invité, l'ancien ministre Alassane Sall.
Merci, madame. Je dis bonjour à tous les auditeurs de votre radio et particulièrement à notre invité qui est sur le plateau. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je salue également votre courage. Je salue votre courage. En fait, ce qui s'est passé au Sénégal par rapport à ce secteur de pétrole, c'est presque dans tous les pays africains. Et là, je suis désolé de le dire. Je donne par exemple le cas de mon pays, la République démocratique du Congo, où il y a des marchés qui se font comme ça de gré à gré. Et même si vous... D'abord, il n'y a pas de ministre qui conteste pareille démarche pour prendre, par exemple, la voie de démission, comme vient de le faire notre invité sur le plateau. Mais ici, par contre, c'est tout le gouvernement qui soutient, et puis c'est juste les organisations des droits de l'homme qui tombent sur le dossier et puis dénoncent, même si ces ONG des droits de l'homme dénoncent, ou d'autres institutions aussi qui dénoncent de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'ils font par la suite? Saisir la justice. Et nous savons comment notre justice en République démocratique du Congo fonctionne. Il n'y a pas de suite du tout. Et puis voilà, l'affaire est classée.
Merci beaucoup. Guy Pierre? Allô, Guy Pierre, vous êtes là? Manifestement, il ne nous entend pas. Francis, peut-être conclure avec notre invité.
Conclure avec notre invité. Peut-être avec une toute dernière question. Monsieur le ministre, parce que ce qu'on retient surtout, ce sont les raisons de votre démission. Vous avez parlé de bradage des ressources pétrolières. Voilà, le Sénégal, donc, qui entre dans le cercle des pays pétroliers. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter de la gestion par l'État sénégalais de cette ressource et des dérives qu'on observe dans d'autres pays pétroliers du continent?
Absolument, oui. Le temps peut-être ne permet pas, comme je le dis souvent, d'entrer dans le fond du dossier. Mais il n'y a pas que ce dossier. Si vous vous intéressez à l'actualité pétrolière du Sénégal, vous verrez que il y a un dossier autrement plus explosif sur lequel on a eu à débattre, c'est celui des deux blocs qui ont été attribués à Timiss Corporation dans des conditions obscures. d'abord par l'ancien régime et ensuite confirmé et conforté par l'actuel régime, celui de Macky Sall, dans des conditions on ne peut plus obscures, et qui défrait la chronique au Sénégal parce que le nom du frère du président est souvent cité. Et que ce dossier donc, va être un jour éclairci puisqu'il y a un rapport de l'inspection générale d'État qui a été lancé par le président Macky Sall lui-même, qui est on ne peut plus clair sur l'illégalité absolue qui entache tous les actes qui ont été posés pour permettre à Timis d'avoir le permis. Donc, au moment même où on découvre du pétrole au Sénégal, il y a de gros nuages noirs qui s'amoncellent parce que nos institutions restent très faibles. Et ce qu'a dit M. Matadi pour le Congo vaut pour d'autres pays.
En 30 secondes, qu'est-ce que vous espérez au bout de toute cette démarche?
Ce qu'on espère, c'est que d'abord faire notre devoir, c'est-à-dire que face à l'illégalité, à ce qui n'est pas dans les intérêts de notre pays, nous opposer et élever la voix et essayer de trouver toutes les ressources. Maintenant, ces contrats étant entachés d'illégalité, on ne désespérera pas un jour de recourir à la justice internationale si un autre gouvernement se mettait en place pour pouvoir
dénoncer
ces contrats qui ont été...
Merci.
Un autre exécutif, vous voulez dire? Puisque des élections en février prochain.
Puisque des élections en février arrivent.
Très bien. Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Suite du débat BBC Afrique et Africa numéro 1 Paris, en duplex à Dakar et Paris. Notre grand témoin invité dans le studio BBC Afrique à Dakar, Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'énergie du Sénégal, leader du mouvement politique La République des Valeurs. Et au téléphone depuis Libreville, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Lungbanja, et il est également président de l'organisation patronale des médias. Et depuis Kinshasa, au téléphone, le fils Matadi, secrétaire de la rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques, et journaliste, reporter aussi d'information, mediacongo.net. On va justement en RD Congo, retour sur la présidentielle avec les résultats de la discorde. À quoi vont ressembler les lendemains de cette élection présidentielle du 30 décembre dernier, dans la nuit du 10 janvier, après une longue journée d'attente? Le président de la CENI, la commission électorale, M. Corneille Nanga, a déclaré vainqueur de la présidentielle Félix Tshisekedi Tshilombo, avec 38,57% des suffrages. Félix Tshisekedi devance Martin Fayoulou, crédité lui de 34,83% des suffrages. Et le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, arrive en troisième position avec 23,84% des voix. En troisième position, pardon, excusez-moi. Oui. Bien sûr, puisqu'ils sont trois. Avec 23,84% des voix, l'annonce suscite évidemment des réactions contradictoires dans le pays face à l'euphorie des partisans de Tshisekedi et la passivité apparente du pouvoir actuel. Martin Fayoulou dénonce un putsch électoral. Plusieurs manifestations de protestation sont déroulées dans le pays. Des manifestations réprimées avec déjà leur lot de victimes. Et alors que les regards étaient tournés vers la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, son porte-parole, l'abbé Donatien Cholet, a déclaré ce jeudi que les résultats, je cite, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Fin de citation. Alors ce vendredi, c'est le jour où nous enregistrons cette émission, Martin Fayoulou a tenu une réunion avec son état-major de campagne pour revendiquer sa victoire. On va écouter avec vous un élément sonore pour bien camper le climat, l'ambiance, Liliane Atcha.
Et il s'agit justement de Martin Fayoulou, joint par BBC Afrique le soir même, la nuit même de l'annonce des résultats, qui dénonçait donc un hold-up électoral au micro de Jacques Matande, dit Yambi.
C'est une vilaine escroquerie. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité.
La vérité, donc, c'est quoi?
C'est ce que je peux vous dire. La vérité des urnes, c'est ce que les Congolais ont vu le soir des élections, après le dépouillement des résultats.
Ils ont vu quoi?
Les résultats ont été affichés dans chaque bureau de vote. Et ces résultats-là, par rapport à ce que M. Nanga vient de donner aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir.
Ça veut dire que vous n'acceptez pas la victoire de Félix? Vous estimez que c'est vous qui avez gagné?
Je dis ceci, les Congolais ne peuvent en aucun cas accepter une telle forfaiture. Monsieur Nanga est en train de coudre un habit noir avec du fil blanc.
Alors, la conclusion pour la coalition Lamouka qui a soutenu Martin Fayoulou, conclusion ce vendredi, Martin Fayoulou réclame sa victoire avec 61% des voix contre...
Juste souligner que Martin Fayulu annonce qu'il saisira la Cour constitutionnelle ce samedi.
Et il va saisir la Cour constitutionnelle, effectivement, ce samedi. Alors, le fils Matadi, quel est le climat aujourd'hui à Kinshasa ? Est-ce que, comme certains le craignent déjà, il y a, je dirais, une ambiance de pré-crise post-électorale ?
Bon, je ne pense pas qu'il faut déjà parler d'une crise post-électorale, parce que il faut dire que depuis le 30, depuis la publication le 10 janvier dernier des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre par la CENI, aujourd'hui nous sommes le 11, la tension a quelque peu baissé par rapport au jour de la proclamation. Je reconnais que c'était un scrutin présidentiel tendu pour désigner le successeur de Kabila. Parce que nous ne devons pas oublier ces élections, nous les attendons depuis décembre 2016. Elles n'ont pas eu lieu pour diverses raisons. La CENI n'était pas prête techniquement et tout, il n'y avait pas de moyens. Et on a dû reporter par deux fois ces élections. Il y a eu d'ailleurs deux dialogues qui ont été organisés pour mettre...
Pour revenir aux élections, au déroulement de le contexte actuel, post-électoral, oui, vous dites que la tension a baissé, mais avec la ferme détermination, sur comme on l'a entendu, Martin Fayulu, de contester ces résultats auprès de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle crispation de la situation ou, pour vous, cet épisode est désormais derrière les Congolais?
Bon, moi je pense qu'il faut d'abord attendre le 15. Comme nous venons de l'apprendre aussi, Martin Fayulu va déposer demain, samedi 12, son recours pour contester les résultats. Et c'est finalement le 15 janvier que la Cour constitutionnelle va
rendre les résultats définitifs.
Mais moi, je compare. J'ai eu la chance de vivre de visu les élections de 2006, les élections de 2011. Au moins pour la première fois, j'ai vu une certaine euphorie dans la ville de Kinshasa, la capitale. C'est quand même le miroir de la République démocratique du Congo. J'ai vu des foules en liesse, en train de célébrer la victoire d'un candidat, ce que je n'ai pas vu en 2006 et en 2011. C'est déjà bon. Mais néanmoins, je reconnais que ces scrutins ont été entachés d'irrégularités, parce qu'on a voté à trois niveaux, la présidentielle, les députés nationaux et puis les députés provinciaux. Il y a eu des irrégularités. Il y a des centres où des machines sont arrivées très, très en retard. Les scrutins devraient commencer à 6 heures pour prendre fin à 17 heures. Mais dans certains bureaux de vote, les machines sont arrivées à 12 heures, à 13 heures, madame. Et ça provoquait même du désordre.
Alors, on n'a pas beaucoup de temps.
Vous dites, le fils m'a dit qu'il n'y a pas de prémices, qu'il n'y a pas les prémices d'une crise post-électorale. Il y a quand même eu des morts depuis jeudi lors de manifestations. Et puis, vous dites, il y a moins d'agitation que pour les élections précédentes. Peut-être parce qu'il y a ce schéma d'alternance au sommet de l'État qui est affiché désormais. D'autant que Tshisekedi est présenté comme un opposant. Mais on voit bien que même ce schéma ne parvient pas, je veux dire, à garantir le lendemain d'élections apaisées en RD Congo.
Bon, pour beaucoup de Congolais, je peux vous le garantir, pour beaucoup de Congolais, l'essentiel c'est qu'il y aura finalement alternance au sommet de l'État. Parce que c'est après tout un opposant qui a gagné les élections. Bon, bien entendu, on attend la dernière décision de la Cour constitutionnelle. Mais aussi, je peux aussi vous affirmer que par rapport au taux de participation à ces scrutins, c'est très, très faible. Ça veut dire que la population en avait marre. Tout le monde disait que même si on vote pour tel candidat, il y aura tel autre qui sera publié. Ils accusaient la CENI d'être un féodé à la politique, spécialement à la majorité au pouvoir. Et ce qui a fait que beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Et malheureusement, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa ce 30 décembre et dans certaines grandes villes, ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Et en dehors de ça,
Merci. Rapidement, Monsieur le ministre Tierno à la Sainte-Salle, certains disent qu'il y a eu un deal, très clairement, entre la majorité et le candidat Étienne Tshisekedi. Si deal il y a eu, comment Félix Tshisekedi, qui il faut aussi le souligner, commence mal son entrée au pouvoir, enfin sa victoire. Et comment peut-il manœuvrer pour imprimer sa marque face à trois adversaires potentiels, c'est-à-dire le camp Fayulu, la Senko qui a dit prendre acte mais qui s'est montrée prudente et qui a également dit que les résultats n'indiquaient pas la vérité des urnes, et peut-être aussi l'autre adversaire, les FCC, c'est-à-dire la coalition au pouvoir, qui l'aurait soutenu. Oui, ça fera trois adversaires. Comment peut-il manœuvrer pour pouvoir imprimer sa marque et se consacrer effectivement au développement que souhaitent les Congolais et à la paix?
En tant que panafricaniste, il faut regretter, présager, sans être un oiseau de mauvais augure, présager une certaine continuité dans l'instabilité malheureusement que vit ce grand pays, ce grand peuple qu'est le Congo. Puisque au lieu de réconcilier les Congolais entre eux et de projeter une trajectoire nouvelle, de les projeter vers une trajectoire nouvelle, on a un pays plus divisé que jamais. N'oublions pas qu'il y a eu un million...
Les élections, finalement, un problème plus qu'une solution.
Plus qu'une solution. Ça ouvre davantage de contentieux. N'oublions pas qu'il y a eu plus d'un million de Congolais qui ont été privés de leur droit de vote, sans aucune raison. La Cour constitutionnelle aurait d'abord dû se saisir parce qu'aucun Congolais n'aurait dû être...
Les élections étaient renvoyées à mars.
Quel sera le sens de renvoyer ces élections? Maintenant, pour revenir sur M. Félix Tshisekedi, n'oublions pas aussi que les sénatoriales et les locales se tiennent et que l'Assemblée...
Et les législatives qui vont être prononcées.
Les législatives. Et que l'Assemblée, le Parlement, a un rôle assez important s'il est placé entre les mains d'une opposition. Et tout semble croire que le camp Kabila a très bien joué pour pouvoir avoir la haute main sur le Parlement. Parce que personne ne semble s'intéresser aux résultats des législatives, mais ça va être crucial pour configurer des rapports de force politique aussi. Et si on sait que la haute administration, les forces de sécurité restent pour l'essentiel contrôlées par le camp Kabila, et l'économie aussi, puisque quand derrière tous ces contrats dont on a parlé, il y a des puissances qui vont soutenir un camp plus que d'autres, avec leurs moyens, leurs réseaux.
Donc du coup, la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi risque d'être très très maigre.
Elle est absolument
quasiment aucune.
D'autant plus que son propre camp n'est pas en réalité un camp, parce qu'avec l'ancien Premier ministre...
Vital Kamerhe.
C'est une solution de dernière minute, un ralliement de dernière minute, mais ce n'est pas en réalité...
Qui a été président de l'Assemblée nationale.
Qui pourrait rejoindre le camp Kabila. Donc, voilà des forces absolument divisées.
Merci.
En face d'un grand pays qui a des urgences comme l'Ebola, etc.
Et la paix là, dans l'Est.
Nous souhaitons en tant qu'Africains que ce grand pays, parce que vous imaginez ce qu'aurait été un Congo grand, debout, un Nigeria grand et debout, ce qu'aurait été l'Afrique. Ça aurait été toute une autre destinée.
La RDC, je crois, quatrième pays africain en termes de population. Merci beaucoup.
De ressources.
Oui, et de population aussi. Francis, je ne sais pas, on peut donner 30 secondes à Guy Pierre, rapidement, et on passe au Gabon sans transition. Mm-hmm.
Oui, oui. Guy Pierre.
Oui, allô?
Un commentaire sur la situation en RDC.
Mais la situation en RDC, c'est Kabila qui est le grand gagnant, dans la mesure où c'est son joker indirect qui a gagné, parce qu'il a joué sur deux ou trois plans. Le premier plan, c'est le candidat du pouvoir, directement, ensuite Chadani, ensuite sur... l'alliance informelle établie avec Tshisekedi.
Ce que demande le camp Tshisekedi, hein, qui a dit qu'il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu de deal.
Version officielle contre version officielle.
Officiellement, madame, nous sommes en Afrique et nous connaissons comment ça fonctionne.
Je me base sur les faits. Il a nié tout deal.
Je peux parler pour vous, monsieur Matadi, parce qu'en vérité, tout à l'heure, on m'interrogeait sur le Sénégal. C'est toujours la version officielle contre la logique des faits, la logique implacable des faits.
Les versions officielles en Afrique sont toujours... truqués de démagogie et de mensonges, mais la réalité, on la connaît.
C'est bien Pierre Bitégué qui parle.
L'Afrique a fait si de particulier que les gens sont plus ou moins informés, ils savent ce qui se passe. Vous voyez, l'hommage qu'il a rendu à peine déclaré élu
à Joseph Kabila, au président sortant,
voilà, montre plus ou moins déjà la reconnaissance qu'il fait et en même temps le rôle déterminant qu'il va jouer dans la suite, notamment de la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup, Guy Pierre. On va rester avec vous d'ailleurs tout à l'heure pour parler de ce dernier sujet. En quelques minutes, votre pays, le Gabon, où l'Église catholique très et même trop discrète du goût de certains Gabonais sur les sujets politiques, s'est exprimée mercredi, soit deux jours après le coup d'État manqué du 7 janvier. L'archevêque de la capitale Libreville a dénoncé avec force, ce sont ses mots, tout ce qui divise est confiné et confine les uns et les autres dans les enclaves sociologiques ou politiques. Nous devons poursuivre l'effort de notre vivre ensemble, indispensable à tous les Gabonais, a encore dit Mgr Basile V. Ngoné. Alors Guy Pierre, une déclaration devant la presse d'une dizaine de minutes, sans explicitement condamner ou défendu le putsch, sans s'exprimer clairement sur la situation politico-institutionnelle de votre pays ou la santé du président Bongo, est-ce que finalement cette sortie servait à quelque chose? Était-elle nécessaire? Et qu'avez-vous retenu de cette sortie de l'Église catholique?
D'abord, vous savez, l'Église catholique, contrairement à ce que vous dites, a des rapports assez particuliers avec le milieu politique ici à Libreville. Donc, la déclaration de Mgr Basile Ndengon est une déclaration qui s'est voulue, disons, superficielle, dans la mesure où il a simplement voulu condamner la violence, la déstabilisation du régime en place.
Et quand vous direz l'Église a des relations particulières avec le cercle politique, en clair?
Mais en clair, lorsque il y a eu le hold-up électoral de 2016, les violences post-électorales qui ont suivi, lorsqu'il y a eu d'autres épisodes d'atteinte aux droits fondamentaux, etc., on a aussi, les populations, l'opinion a aussi voulu voir l'Église sortir de sa réserve avec la même rapidité pour condamner et appeler les uns et les autres au respect de la Constitution et des droits fondamentaux, ce qui n'est pas souvent venu. Et c'est d'ailleurs le sentiment aujourd'hui à Libreville pour un grand nombre de gens qui pensent que, d'une manière ou d'une autre, la déclaration qui a été faite va plus ou moins en soutien au régime établi qu'à diagnostiquer et à proposer des solutions au chaos institutionnel actuel à Libreville.
Francis?
Oui, très rapidement, on parle du coup d'État le plus bref, jamais connu, évidemment, et plusieurs questions se posent encore, il y a beaucoup de zones d'ombre. Une enquête a été diligentée, évidemment. Que faut-il attendre? Qu'est-ce que vous attendez de l'enquête qui a été diligentée pour comprendre les dessous de cette affaire?
Mais bien entendu, l'enquête doit pouvoir dire exactement qui sont les commanditaires de cette opération, parce que il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Comment des éléments de la garde républicaine ont-ils pu sortir de leur caserne?
La compagnie d'honneur.
La compagnie d'honneur. Le discours qui est sorti, le discours qu'ils ont lu était un discours plus politique que commercial, ce qui veut dire d'une manière ou d'une autre qu'il y a dû y avoir des complicités, mais qui sont essentiellement politiques et liées.
Vous parleriez de mise en scène, comme l'affirment certains Gabonais?
Dans la matinée de lundi, les gens, la population était réveillée avec d'abord une forme de sentiment de satisfaction parce qu'il faut le dire que la grande majorité des Gabonais aujourd'hui souhaitent un changement de régime. Du coup, quelques temps après, lorsque les choses se sont écoutées au bout de une heure, deux heures, les gens ont compris qu'il y avait une forme de mise en scène dans la mesure où l'absence d'organisation finalement visible de ce fameux putsch a amené un certain nombre de débuts dans l'opinion à se dire est-ce qu'on n'est pas dans un coup fomenté. Il faut se rappeler que l'année surpassée, il y a déjà eu l'affaire d'Abamiko où un fameux commando d'un opposant avait été monté pour faire ce qu'elle lui dit si M. Ali Bongo ne démissionne pas. Cette affaire aujourd'hui, il n'y a jamais eu de suite malgré l'enquête qui avait été annoncée. Donc les gens se disent est-ce qu'on n'est pas dans le prolongement de ces faux montages du coup d'État.
Merci Francis. L'invité insiste pour dire un mot sur le Gabon.
L'appareil du pouvoir.
D'accord. Francis, l'invité voudrait absolument s'exprimer sur le sujet.
Très rapidement, il nous reste très peu de temps.
D'abord, une boutade, vous avez dit tout à l'heure sans transition, mais je crois qu'on est dans la continuité de ce qui se passe entre le Sénégal, la RD Congo, le Gabon, dans une même Afrique de tourbillon où on ne parle que des problèmes politiques au lieu de s'occuper des questions de développement. Mais ensuite et surtout, si on analyse ce qui s'est passé au Gabon, le grand gagnant, c'est le pouvoir. Puisque, en vérité, ça lui permet de reprendre la haute main, de d'évacuer le débat sur l'absence du président et de reprendre la main sur l'appareil de sécurité.
De reporter éventuellement l'opinion sur une autre question.
Sur une autre question et éventuellement de crever l'abcès de velléité éventuelle de résistance ou de rébellion et de mettre l'opposition dans une posture défensive. Puisqu'aujourd'hui, si je comprends bien, le camp de
Jean-Ping
et autres sont dans une posture de dire que nous n'avons rien à voir avec le putsch manqué, que de prendre des initiatives visant quand même à rétablir un fonctionnement normal d'un pays qui est un peu malade, me semble-t-il, qui lui-même a quelques problèmes vasculaires. Et donc, sans être méchant, et pour donc dire les choses très franchement, très franchement, nous avons les mêmes problèmes d'institution. Au Sénégal, ici, la Cour constitutionnelle va livrer son verdict final dans les prochaines heures. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais sur des bases qui contredisent ce que le ministère de l'Intérieur même a indiqué comme étant les critères de choix ou de sélection des parrainages.
Puisque des en vue de la présidentielle de février.
En vue de la présidentielle. Moi, j'ai été éliminé sur ces bases-là, on m'a sucré, j'allais dire, 18 000 parrainages. Sur la base que M. Francis Laloupo, on se trompe sur son nom, on met Francis avec S ou avec C, ça change tout. Alors que votre numéro d'identification nationale, CDAO, de 17 caractères est unique, votre numéro d'électeur est unique et qu'on l'a prouvé, et que votre signature figure sur notre fiche papier, mais que dans le report, dans la saisie électronique, il y a eu une erreur matérielle. Alors que M. Bernard Casimir Cissé, j'insiste sur ce point qui est important pour la compréhension de vos électeurs, une minute. M. Bernard Casimir Cissé, directeur de la communication du ministère de l'Intérieur, en donnant l'exemple sur les parrainages, a dit que moi, on m'appelle Casimir, mais les gens m'appellent souvent Casimir. S'ils mettent deux S, il n'y a pas de problème. Je vous renvoie à l'émission d'un de vos confrères le 1er septembre et les explications qu'il a fournies. Donc, partout en Afrique, le Conseil constitutionnel de nos pays ne sont pas des conseils constitutionnels indépendants.
Liliane, exceptionnellement, nous n'avons plus le temps d'écouter les messages des internautes, bien entendu.
C'est bien dommage.
Le propos de notre grand témoin était précieux. Donc voilà, on a privilégié évidemment les propos de Tierno Alassane Sall, qui était notre invité, ancien ministre de l'énergie du Sénégal, leader du mouvement, président du mouvement politique La République des Valeurs. Merci également, merci beaucoup à nos confrères invités au téléphone depuis Libreville, Guy-Pierre Bitégué, directeur de la publication du journal Lumbanja, édité au Gabon, président de l'organisation patronale des médias LOPAM. Au téléphone depuis Kinshasa, nous avons reçu dans cette édition le fils Matadi, secrétaire à la rédaction au quotidien La Tempête des Tropiques et journaliste reporter au site d'information mediacongo.net. Merci chers confrères de vos éclairages. Cette émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Richard, Thierry Mbou et Kijina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique Africa numéro 1 Paris. Merci encore à notre grand témoin Tierno Alassane Sall. Bon week-end à toutes et à tous. Et bon week-end à vous, Liliane.
Oui, Francis, à la semaine prochaine, sans faute. Au revoir.
Au revoir.